Radio France Internationale, il est 6h en temps universel, 7h à Paris, 9h à Damas.
Marion Kazanov.
Le journal avec Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Marion, bonjour à tous. L'inquiétude des Syriens jusqu'à Damas après les affrontements dans l'Ouest entre les nouvelles forces de sécurité et des combattants fidèles à Bachar al-Assad. 745 civils alaouites auraient été tués en 3 jours. Un épisode de violence qui montre la fragilité du nouveau pouvoir en place. Dans l'actualité également, la nouvelle aide militaire de presque 200 millions d'euros de la France pour l'Ukraine au moment où Moscou revendique des avancées dans la région russe de Koursk. La société civile qui craint un retour de la guerre civile généralisée au Soudan du Sud. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau prêt à connaître le nom de son successeur. Et puis les Britanniques appelés à recenser les jonquilles de leur jardin pour mieux protéger les espèces en danger. Explication et reportage en fin de journal avec la correspondante de RFI au Royaume-Uni.
3 mois après la chute de Bachar al-Assad, ce sont les premières violences de cette ampleur en Syrie.
Des affrontements dans l'ouest du pays entre les nouvelles forces de sécurité et des combattants fidèles à l'ancien président. En 3 jours, un peu plus de 1000 personnes ont été tuées, dont 745 civils alaouites, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les écoles vont rester fermées jusqu'à demain dans les provinces de Latakié et de Tartous. Et jusqu'à Damas, les habitants sont inquiets. Reportage de Mohamed Erami.
Malgré le climat de sécurité relatif que connaît la capitale syrienne Damas, les combats armés qui ont éclaté dans les villes côtières ont eu un impact négatif sur le sentiment de sécurité des habitants. Cela s'est clairement reflété dans les témoignages de plusieurs clients du marché El Salija, en plein centre de la capitale syrienne. Certains estiment que les événements sur la côte pourraient raviver de nouveaux conflits dans le pays.
La situation sécuritaire est très inquiétante. Nous avons très peur. Par exemple, je suis une femme dans la quarantaine et je crains de sortir de chez moi après 17h.
Nous demandons au gouvernement actuel d'intensifier les campagnes de sécurité dans les régions en dehors de Damas, car la ville est plus sûre que les zones rurales et d'autres régions.
D'autres personnes présentes sur le marché ont appelé la nouvelle administration à réorganiser rapidement le système de sécurité dans la capitale et à mettre fin à la présence anarchique de combattants armés dans les rues, les marchés et les quartiers résidentiels.
Nous devons maintenant penser selon la logique de l'État, donc il est préférable pour nous, en tant que citoyens, de traiter avec une entité organisée comme le ministère de la Défense, et non de traiter de manière sécuritaire avec des chefs de factions armées. C'est pourquoi nous constatons un certain laisser-aller sécuritaire.
Depuis le début des combats, dans les régions côtières syriennes, le gouvernement a renforcé la présence des forces de sécurité, installé des points de contrôle et intensifié les fouilles des véhicules et des passants. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
Et hier, les routes qui mènent à la région côtière ont été fermées pour contrôler les infractions, prévenir les exactions. Les forces de l'ordre syriennes sont appelées à ramener l'ordre. Mais pour Thomas Pierret, spécialiste de la Syrie, ces combats sont le signe d'une fragilité du nouveau pouvoir en place.
Il a surtout du mal à contrôler ses propres troupes et à contrôler sa population. Je pense que c'est beaucoup plus ça le problème, c'est-à-dire que il y a des unités qui contrôlent assez bien, comme la sécurité générale, hein, qui sont les unités en charge de la sécurité intérieure, que hier soir on a vu par exemple protéger des quartiers alaouites de Homs pour éviter des représailles de la population contre ces quartiers. Il y a en revanche d'autres unités. On parle beaucoup d'unités avec des combattants étrangers, comme des Ouzbeks par exemple, ou tout simplement parfois des civils, des voisins qui se vengent d'événements qui ont pu se produire il y a 10 ans ou 15 ans. Et tout ça, c'est plutôt ça que le régime ne semble pas contrôler complètement et ça pourrait effectivement lui coûter très cher.
Thomas Pierret, politiste, chercheur au CNRS, rattaché à l'Institut de Recherche et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman. Les églises syriennes dénoncent ces massacres de civils innocents et appellent à la fin immédiate de ces actes horribles. La France, elle, condamne avec la plus grande fermeté ces exactions.
La France qui s'engage par ailleurs à mobiliser près de 200 millions d'euros pour aider l'Ukraine sur le plan militaire.
Grâce aux intérêts des avoirs russes gelés, c'est le ministre français des armées qui l'indique dans une interview à la Tribune dimanche. Sébastien Lecornu qui se rendra au Pentagone prochainement et qui assure toujours considérer les États-Unis comme des alliés. Et malgré les dernières décisions prises par les Américains, suspension du partage de renseignements avec Kiev, gèle aussi des livraison d'armes. Un coup dur, reconnaît le ministre français des armées. Et comme lui, les Européens dénoncent les décisions de Washington au moment où Moscou dit avoir repris Romain Le Maresquier trois villages dans la région russe de Koursk et intensifie ses frappes en Ukraine.
Les missiles russes continuent de s'abattre sans relâche sur l'Ukraine, apportant toujours plus de morts et de destruction. Encore une fois, Poutine montre qu'il n'a aucun intérêt pour la paix. Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne, est claire dans son message posté ce samedi matin sur les réseaux sociaux. Pour elle, les manœuvres entre Washington et Moscou ne mènent nulle part, même si elle ne préfère pas faire la relation entre la multiplication des frappes russes et la fin du partage des renseignements américains avec Kiev. Tout l'inverse de Donald Tusk, le premier ministre polonais, qui n'hésite pas à parler de l'échec de la politique d'apaisement développée par Washington, qui selon lui mène à plus de bombes, plus d'agressions et plus de victimes en Ukraine. C'est ce qui arrive quand on apaise les barbares, explique-t-il sur le réseau social X. Nous devons renforcer notre soutien militaire, sinon davantage de civils ukrainiens paieront le prix fort, explique quant à elle Kaya Kallas, quelques jours après un conseil européen extraordinaire à Bruxelles, qui a permis de jeter les bases pour un réarmement de l'Europe. Sans ce soutien, l'Ukraine ne pourra pas résister bien longtemps à l'agresseur. Selon certains experts militaires, l'armée ukrainienne dispose de stocks suffisants pour lutter encore 5 à 6 mois, mais face à l'intensification des frappes russes, ce laps de temps pourrait bien être fortement réduit, préviennent ces experts.
Et les discussions pour entamer d'éventuelles négociations sur une fin de la guerre se poursuivent. Malgré tout, une délégation ukrainienne composée notamment de ministres va rencontrer une équipe américaine mardi en Arabie Saoudite. L'Australie, de son côté, indique qu'elle pourrait envisager de participer à une mission de maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Des négociations pour une trêve aussi dans la bande de Gaza. Le Hamas évoque des signaux positifs après une rencontre avec les médiateurs égyptiens. Le mouvement islamiste palestinien qui appelle toujours à entamer directement les discussions sur la deuxième phase de l'accord de trêve, alors qu'Israël souhaite plutôt une extension de la première phase jusqu'à la mi-avril. Une délégation israélienne est attendue au Qatar demain.
En Allemagne, la formation du futur gouvernement avance.
Les conservateurs du futur chancelier Friedrich Merz et les sociaux-démocrates ont annoncé un accord de principe pour une coalition. Les négociations plus détaillées vont débuter dans la semaine qui vient, mais ils sont a priori d'accord pour lever le frein à l'endettement concernant les dépenses pour la défense. Et puis sur l'immigration, le SPD a finalement accepté une proposition controversée des conservateurs concernant un refoulement aux frontières des étrangers sans papier, y compris des demandeurs d'asile. Au Soudan du Sud, malgré l'appel au calme vendredi du président Salva Kiir, la société civile se dit très inquiète face à la résurgence des violences dans plusieurs régions, notamment dans l'état du Haut-Nil, et face aux arrestations de plusieurs personnalités politiques. La présidente de la Commission sur les droits de l'homme des Nations Unies au Soudan estime que le pays est entré dans une régression alarmante qui pourrait anéantir des années de progrès vers la paix. Même inquiétude pour Jacqueline Nassiwa, vice-présidente du Forum de la Société Civile et directrice exécutive du Centre pour la Gouvernance Inclusive, qui craint de voir le pays retomber dans une guerre civile généralisée.
Le pays est actuellement très fragile. Et si ces tensions ne s'apaisent pas, nous risquons un conflit national à grande échelle. Les gens sont en train de se replier sur leurs groupes ethniques, leurs politiques régionales. Cela ne nous aidera pas à guérir en tant qu'État. Un dialogue national est très important. Deuxièmement, j'appelle à l'unification des forces armées. Cela prend trop de temps et les différents groupes se sont réarmés, remobilisés. Il faut donc accorder beaucoup de financement et de soutien à l'intégration des forces afin que nous ayons une armée nationale unifiée. Sans armée unifiée, le reste ne peut pas bien avancer. Et les partis politiques doivent être démilitarisés. Donc, tout cela n'arrivera que lorsque nous aurons une armée nationale et que les politiciens devront tous jouer sur un pied d'égalité en étant des politiciens et pas des militaires en même temps.
Des propos recueillis par Amélie Tulé. Au moins 13 morts en Argentine à cause des pluies torrentielles et des inondations qui se sont abattues sur la ville portuaire de Bahia Blanca, à 600 km au sud-ouest de Buenos Aires. 400 mm de pluie en 8 heures, soit l'équivalent de ce qui tombe habituellement en une année. C'est sans précédent, selon le ministre de sécurité de la province. Le gouvernement a débloqué une aide d'urgence de 10 milliards de pesos, un peu plus de 8 millions et demi d'euros.
C'est une page politique qui se tourne au Canada.
Après un peu moins de 10 ans au pouvoir, Justin Trudeau va officiellement connaître le nom de son successeur aujourd'hui. Le Parti libéral doit élire son nouveau chef, celui qui sera ensuite appelé à devenir Premier ministre. Et a priori, ce sera Marc Carney, l'ancien directeur de la Banque centrale du pays, favori parmi les quatre candidats. Son arrivée en politique et son opposition à Donald Trump lui ont été favorables, comme l'explique Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta.
Mark Carney a beaucoup joué sur le fait qu'il ne faisait pas partie du gouvernement, qu'il arrive de l'extérieur, qu'il n'a pas les mains liées par l'équipe qui l'a précédé. Mark Carney est parvenu à imposer l'idée que par conséquent, il représente le renouveau et que son expérience passée comme gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre lui donne une expérience pour être en mesure d'affronter Donald Trump, de transiger avec Donald Trump. Sur ce plan, il est parvenu à imposer cette thématique et par conséquent, on voit en lui, certains voient en lui comme une sorte de sauveur qui pourra éventuellement faire reculer Donald Trump.
Frédéric Boily, interrogé par Marine de la Moissonnière, la passation de pouvoir entre Justin Trudeau et le futur Premier ministre devrait ensuite prendre plusieurs jours une fois le gouvernement formé.
Il est 6h10, 6h11 en temps universel et à Londres, c'est l'un des signes du retour du printemps.
Et oui, le jaune des jonquilles dans les pelouses, eh bien les Britanniques sont invités cette année à répertorier ces fleurs dans leur jardin. La Société Royale d'Horticulture espère ainsi mieux protéger les espèces en danger. Un reportage d'Emeline Vin au jardin botanique de Weasley au sud-ouest de Londres.
Au sol de la pinède du jardin botanique de Weasley, des dizaines de jonquilles jaunes et oranges qui ravissent Paul, jardinier amateur.
Certaines variétés sont en danger. J'ai lu dans le magazine de la Société Royale d'Horticulture un appel à les chercher chez soi, à savoir si elles existent encore dans certaines régions. Nous, on n'en a pas.
À l'origine de cet appel, la Société Royale d'Horticulture, Fiona Davison dirige la bibliothèque de la RHS.
Sur 30 000 variétés connues de jonquilles, une toute petite partie continue d'être cultivée et beaucoup ont été perdues. Nous demandons aux jardiniers de rechercher 3 variétés très rares et potentiellement éteintes, de jonquilles qui pourraient avoir été plantées il y a longtemps dans un jardin et oubliées depuis. Si on peut les retrouver, on pourra ensuite les reproduire et les protéger.
Parmi ces variétés égarées, un narcisse à double corolle blanche, le Sussex Bonfire rond et doré, et la préférée de Fiona Davison, le narcisse rose et ivoire Mrs. Backhouse.
Cette fleur tient son nom de Sarah Backhouse, une pionnière du jardinage qui a créé la première jonquille rose. Elle mériterait d'être sortie de l'oubli, donc on aimerait vraiment retrouver sa jonquille.
Un millier de jonquilles ont déjà été cartographiées, dont plusieurs pistes prometteuses. Emeline Van, Londres, RFI.
Et puis des dernières nouvelles un peu plus rassurantes du pape François. Il réagit bien aux soins qu'il reçoit selon le Vatican. Légère amélioration donc de son état de santé, même si les médecins restent prudents. Le pape François qui est hospitalisé depuis presque un mois pour une double pneumonie.
Et c'était le journal de Clotilde Dumais. Vous revenez pour le journal de 8h, temps universel. Pour l'heure, il est 7h13 à Paris, 6h13 en temps universel. À suivre sur RFI la chronique Défense, on parlera des conséquences de la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Un vide difficile à combler, notamment en matière de renseignement. C'était la clé de l'efficacité de l'armée ukrainienne sur le terrain. Dans le tour du monde des correspondants, on part aujourd'hui en Italie, en Équateur et en Afrique du Sud. On verra comment fonctionnent les prisons de haute sécurité. On verra que chez certains, le système carcéral est trop fragile pour accueillir des criminels dangereux. Chez d'autres, le régime strict de ces centres pénitentiaires alarme les ONG de défense des droits humains. Et puis dans la chronique C'est dans ta nature, on parle aujourd'hui de la mondialisation du braconnage avec l'exemple du pangolin qui fait l'objet d'un trafic mondial. Mais avant, place au sport. Avec vous, Antoine Grenier. En football, Antoine, Marseille laisse encore échapper des points.
L'OM battu par Lens sur le fil dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. 1-0, Neil El Aïnaoui offre la victoire à des Lensois qui restaient sur 4 défaites de suite. De quoi les soulager, forcément, et conforter aussi Will Steele sur le banc nordiste. Neil El Aïnaoui, le seul buteur de la rencontre, espère donc chez nos confrères de DAZN que ce succès relancera les Lensois dans la course à l'Europe.
On a fait un match de bonhomme. On a su, on avait pas mal de blessés, pas mal d'absents et en fait c'est tout un groupe en fait. On voit que c'est pas que les 11 qui jouent, c'est tout un groupe, c'est toute une famille. On a fait le match qu'on voulait faire et ouais, franchement c'est de bon augure pour la suite. Venir gagner ici c'est pas rien, donc faut vraiment qu'on savoure cette victoire et voilà qu'on prenne tout le positif qu'on a fait Et c'est la dernière ligne droite et voilà, prendre comme j'ai tout le positif et aller de l'avant maintenant.
Un samedi de Ligue 1 qui s'était ouvert sur le succès du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 sur Rennes, le PSG plus que jamais leader de Ligue 1. Il y a aussi Lille qui s'est imposé 1-0 sur Montpellier ce dimanche. 5 rencontres, Brest-Angers, Le Havre-Saint-Etienne, Nantes-Strasbourg, Reims-Auxerre et Nice-Lyon, des Aiglons qui, en cas de succès, peuvent rejoindre, voire pourquoi pas dépasser Marseille à la deuxième place du classement.
En Angleterre, après une prestation décevante face à Paris, Mo Salah se réveille.
Doublé sur pénalty pour l'Égyptien, ses 26e et 27e but de la saison en Première Ligue pour offrir un succès aux Reds. 3 buts à 1 sur Southampton. Nottingham, le 3e, a creusé l'écart sur Manchester City en dominant justement les Citizens, 1 but à 0. Brighton poursuit sa belle saison avec une 6e place grâce à son succès 2-1 sur Fulham. Ce dimanche, cette 28e journée de Première Ligue se poursuit avec Arsenal, 2e à 16 points de Liverpool, qui se déplace sur le terrain de Manchester United. Chelsea, 5e, reçoit Leicester et Bournemouth, 9e, affronte Tottenham.
En Italie, Antoine, 28e journée de Serie A. L'Inter Milan, leader du classement, garde la tête froide.
Les Nerazzurri, menés 2-0, se sont finalement imposés 3-2 sur Monza et conservent leur avance en tête. 4 points de plus que Naples, qui affronte la Fiorentina ce dimanche. Une journée qui verra la Juventus, 4e, affronter l'Atalanta Bergame, 3e. Un choc entre deux équipes frustrées par leur campagne déjà terminée en Ligue des Champions. Thiago Motta, l'entraîneur de la Juve, s'attend donc à un match délicat.
Nous allons affronter une grande équipe. En championnat, ils sont bien placés, et ce depuis un bon moment maintenant. Lors des précédentes confrontations sur notre pelouse, ça a toujours été difficile pour nous. Au risque de me répéter, nous affronterons une équipe avec des bons joueurs et un coach incroyable. Il m'a dirigé lorsque j'étais joueur et il a su me relever dans une période difficile de ma carrière.
Juventus Atalanta, coup d'envoi 19h45, temps universel.
Et on termine avec le rugby. Le 15 de France reprend la main dans le tournoi des Six Nations.
Des Bleus impressionnants en Irlande avec une victoire 42-27 qui leur permet de prendre la première place du classement. Seul bémol, mais il est de taille, la blessure d'Antoine Dupont sur un balayage irlandais. De quoi provoquer la colère du sélectionneur français Fabien Galthié.
Il y a la suspicion d'une blessure assez grave au genou. Je rentrerai pas dans les détails parce que le secret médical et puis il y a des compétences. Mais Antoine souffre, faut dire les choses comme elles sont. On a cité des joueurs à comparaître devant la commission, Tagburn et Porter. On a cité aussi des joueurs à comparaître devant la commission sur Pierre-Louis Barassi, Nash. Il faut savoir que Pierre-Louis Barassi n'a pas répondu favorablement au protocole. Donc là aussi, il y a des images. Donc on a cité, nous les joueurs ne rentrent pas, de l'autre côté les joueurs rentrent, donc on veut comprendre pourquoi. Donc on est sur cette question-là, on est en colère.
Et avec ou sans Antoine Dupont, les Bleus tenteront de remporter le tournoi samedi prochain face à l'Écosse au Stade de France. Des Écossais, vainqueurs hier du Pays de Galles, 35-29. Dernier match de ce tournoi destination, de cette journée du tournoi destination à 15h, temps universel. L'Angleterre, 4e du classement, accueille l'Italie à Twickenham.
Et c'était le journal des sports, merci Antoine Grenier. L'armée ukrainienne en difficulté sur le front de l'Est, mais aussi à Koursk, région russe frontalière dans laquelle elle a lancé une offensive à l'été. Et ces difficultés pour Kiev vont probablement s'aggraver avec le gel de l'aide militaire américaine décidée mercredi. Washington met en pause notamment le partage de renseignements avec Kiev. C'était pourtant essentiel, Franck Alexandre, pour épauler les forces ukrainiennes sur le champ de bataille.
Pour Kiev, le coup est rude. Les forces ukrainiennes ont à la fois perdu l'apport en matériel stratégique, à l'instar de la défense solaire, avec l'emblématique système Patriot, l'artillerie longue portée avec les HIMARS, mais surtout, l'armée ukrainienne a perdu l'accès aux renseignements, véritable clé de leur efficacité, souligne Philippe Gros de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Et notamment, l'appui renseignement qui permet aux forces ukrainiennes de planifier leur feu dans la profondeur. Le renseignement américain a servi directement à appuyer la planification du ciblage effectué par les Ukrainiens dans la profondeur du dispositif russe, ça c'est sûr. Attention, les Américains n'ont pas été les seuls à fournir du renseignement, mais la machine du renseignement américaine était telle que dans ce domaine, vous avez un écart avec les productions des autres alliés qui est énorme.
Les frappes ukrainiennes sur les concentrations d'hommes et de matériel ont permis d'entraver les offensives russes. Sans renseignement, les conséquences se feront sentir très rapidement, note Vincent Touré, chercheur à l'Université de Montréal.
L'absence d'une aide américaine de renseignement va surtout être un impact en termes de délai du ciblage. C'est-à-dire qu'avant, au lieu d'avoir une frappe réactive en 5 minutes, on dit dynamique, une frappe dynamique, là, les frappes ukrainiennes risquent d'avoir un temps de latence un peu plus élevé. Mais c'est pas insurmontable parce que les Ukrainiens sont toujours très inventifs, donc ils ont plein de capteurs assez alternatifs pour compenser le manque d'aide américaine.
Et l'alternative pourra venir de Paris, qui a indiqué cette semaine fournir du renseignement aux Ukrainiens. En revanche, il sera plus difficile de compenser le retrait du système de communication américain. Point de Vincent Touré.
Les Ukrainiens dépendent quand même très fortement de Starlink. C'est là encore pas rédhibitoire, mais encore une fois, c'est des latences supplémentaires. L'avantage de Starlink, en fait, c'est que ça vous donne un internet du champ de bataille aisément déployable. Le temps de déploiement, c'est à peu près 100 minutes, même pas. L'objet est très ergonomique, donc en plus, la prise en main est facile. Il existe d'ailleurs d'autres constellations qui sont moins sophistiquées. Le champ de bataille est quand même assez positionnel. Donc même s'il y a une perte de l'internet maintenant, il faut bien imaginer que les Ukrainiens, d'ailleurs comme les Russes, ils ont de la fibre optique, ils ont des fils téléphoniques, ils ont plein d'autres moyens de communication. Mais Starlink, c'était un peu la crème des coms, et ça leur permettait en fait de pallier à beaucoup de problèmes. Ça rend les choses plus complexes pour les Ukrainiens, mais ça va pas être synonyme d'un effondrement du front, quoi.
Pas d'effondrement du front, plutôt un rééquilibrage en faveur de Moscou, car avec le retrait américain du renseignement et des communications, disparaît une partie de l'excellence tactique des forces ukrainiennes. C'est le cadeau de la Maison Blanche au Kremlin.
La chronique défense, signée Franck Alexandre. Des prisons hermétiques pour accueillir les 200 narcotrafiquants les plus dangereux de France, c'est ce qu'a promis le ministre de la Justice. Gérald Darmanin a choisi pour cela cette semaine les centres pénitentiaires de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe, des prisons de haute sécurité faites pour éviter toute tentative d'évasion. Deux semaines après l'arrestation de Mohamed Amra en Roumanie, qui s'était évadé en 2024, évasion ultra-violente qui avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires. Le régime strict qui va être imposé à ces prisons françaises inquiète des ONG de défense des droits humains. Un régime d'ailleurs directement inspiré des prisons italiennes, Anne Lenir.
En Italie, 90% des détenus dans des prisons de très haute sécurité sont des boss en lien avec les mafias italiennes. Actuellement, 727 hommes et 12 femmes sont soumis à un régime que l'on appelle le 41 bis. Ils sont coupés de tout contact avec l'extérieur et avec les autres détenus et ne peuvent sortir que 2 heures par jour de leur cellule. Ils sont sous surveillance constante avec des fouilles pluricotidiennes, tandis que les parloirs et les appels téléphoniques, intégralement enregistrés, sont limités à 1 par mois. L'un des grands objectifs de ces conditions de détention draconiennes, régulièrement dénoncées comme inhumaines par des ONG, est de faire de ces détenus des repentis, c'est-à-dire des collaborateurs de justice qui apportent des informations déterminantes pour mieux lutter contre le crime organisé.
En Équateur, le narcotrafic ne s'arrête pas au seuil des prisons. Les gangs continuent de se livrer une guerre violente jusque dans les cellules. Elle a coûté, cette guerre, la vie à 600 détenus depuis 2019. Et le gouvernement de Daniel Noboa a du mal, jusque-là, à mieux sécuriser le système carcéral. Aujourd'hui, candidat à sa réélection, son bilan n'est pas à la hauteur de ses promesses, Éric Sanson.
Il y a un an et demi, le candidat Daniel Noboa avait promis de louer 3 navires prison et de construire 2 nouveaux centres de détention sur le modèle salvadorien. Premier problème, les 3 navires prison n'étaient pas disponibles et n'ont jamais quitté les rivages lointains où ils étaient déployés. Quant aux nouvelles prisons, une première devait être construite près de la ville amazonienne d'Archidona, mais la population locale ne l'a jamais acceptée. Après 15 jours de manifestations, le gouvernement a abandonné l'idée à la mi-décembre. Le président Noboa peut cependant se targuer d'avoir commencé la construction d'un centre de détention dans une région isolée de la province de Santa Elena. Prévu pour 800 détenus et les principaux leaders des bandes armées du pays, cette prison, dite de la rencontre, sera dotée de pavillons de sécurité haute, maximale et super maximale, d'inhibiteurs de téléphones portables et satellitaires, de 3 murs de sécurité blindés et de gardes anonymes pour éviter les menaces ou la corruption. Le chantier a cela dit été paralysé pendant des semaines après une attaque à l'explosif menée en fin d'année par une 30aine d'assaillants. Le président Noboa ne pourra donc pas l'inaugurer avant le 2e tour de l'élection présidentielle du 13 avril prochain.
Éric Sanson. Mais même avec une sécurité XXL, il y a toujours des failles. En Afrique du Sud, l'affaire Thabo Bester l'a bien montré. En 2022, ce criminel condamné pour meurtre et viol est parvenu à s'échapper de sa cellule de Mangaung avant d'être retrouvé un an plus tard, Claire Bargelès.
L'homme de 38 ans est désormais à nouveau derrière les barreaux, en attente de jugement, après un an de cavale. Il s'était évadé de l'une des prisons les plus sécurisées du pays, près de Bloemfontein, après un scénario complètement fou. En mai 2022, les autorités retrouvent un corps calciné dans sa cellule suite à un incendie et concluent que le criminel s'est immolé par le feu. Sauf que le vrai Thabo Bester avait en fait pris la fuite, laissant derrière lui le cadavre d'un inconnu. Mais plus que la hauteur des murs, les systèmes de contrôle ou les outils informatiques à disposition des prisons, cette affaire pose la question des failles au niveau du personnel, car c'est avant tout la corruption qui a permis de mettre en place un tel plan d'évasion. Et comme ce centre de Mangaung est géré au travers d'un partenariat public-privé par une entreprise de sécurité britannique, cette affaire jette aussi une ombre sur la privatisation des établissements carcéraux. Le nouveau ministre des services correctionnels a indiqué ne pas vouloir renouveler les contrats des deux prisons du pays concernées par ce type de statut.
Et Claire Bargelès pour refarmer ce tour du monde des correspondants. Il est 7h25 à Paris. Des pangolins morts ont été retrouvés par les douanes françaises dans des bagages en provenance du Cameroun. Partout sur la planète, des dizaines d'espèces protégées sont la cible de trafic. Une économie souterraine qui menace la biodiversité mais aussi l'humanité. C'est le sujet de la chronique de Florent Guignard, c'est dans ta nature.
Accusé à tort dans l'affaire du Covid, le pangolin est décidément un héros bien malgré lui. Il est l'animal le plus braconné dans le monde. Charlotte Nittard est porte-parole de l'association Robin des Bois.
C'est le couteau suisse de la médecine traditionnelle chinoise. Le pangolin chinois est considéré commercialement éteint. Et donc les fournisseurs se sont rabattus sur le continent africain. En Afrique, vous avez beaucoup d'expatriés chinois qui travaillent sur des chantiers, qui donc servent de fournisseurs, d'intermédiaires, de rabatteurs. Ce petit mammifère absolument pacifique dont la stratégie est de se mettre en boule quand il a un ennemi en face. Donc si vous voulez, pour le braconnier, c'est une affaire en or, il n'y a qu'à le ramasser.
Dans l'atlas du business des espèces menacées, publié par Robin des Bois, de nombreux trafics convergent vers la Chine. Les routes de la soie sont aussi des routes de la mort.
La puissance de lobby et financière de la médecine traditionnelle chinoise, qui veut surtout pas perdre de terrain. Il y a aussi l'aspect signe extérieur de richesse pour un repas entre notables, servir de la viande de tigre ou de la viande de pangolin, ça fait son effet. Et puis le nombre d'habitants, tout simplement.
Ça, c'est le chant recherché du chardonneret élégant, un petit oiseau haut en couleur, bariolé de rouge, jaune et noir, braconné depuis des siècles et quasiment éteint en Afrique du Nord.
Il en reste au Maroc, un hotspot du trafic, et le chardonneret est migrateur, et donc sur toute sa route de migration, il est de plus en plus piégé, à la glu. Forcément, au moins il y en a, plus ça vaut cher. Par exemple, au Maroc, quelques dizaines ou une centaine d'euros, qui après, en France ou en Belgique, peut atteindre pour un couple 500 euros. Donc il y a de l'argent à se faire.
17 milliards d'euros pour toutes les espèces menacées, c'est une économie de guerre souterraine qui s'approprie le bien commun, Charlotte Nittard.
Une guerre avec des morts parmi les rangers ou les défenseurs de l'environnement. Ça finance des groupes terroristes ou des milices clandestines. Tout simplement la paix est remise en cause par le braconnage.
Les chasseurs nous rattrapent et le piège se ferme sur mes pieds. Les filets tombent sur ma carcasse de singe. Passe-moi le flingue, je retourne la situation. Shotgun sur le braconnier.
Allez, la question de la semaine.
Les animaux penchent-ils à droite ?
C'est vrai qu'on a longtemps pensé que seuls les humains préféraient utiliser une main plutôt qu'une autre, à 90% la droite. Mais chez le kangourou, par exemple, c'est l'inverse. Ils sont à 90% gauchers. Chez les chats, une étude a montré que les mâles étaient plutôt gauchers et les femelles droitières, sans qu'on sache très bien pourquoi. Il est même question de la latéralité chez une espèce de serpent, alors qu'il n'a pas de pattes. Mais le mâle possède deux appareils génitaux et c'est toujours celui de droite qui est le plus gros.
C'est dans ta nature, chronique de Florent Guignard, que vous réécoutez sur notre site rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. Vous y retrouvez d'ailleurs toutes nos autres chroniques. Il est 6h29 en temps universel dans une minute sur RFI, un nouveau journal d'actualité africaine.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
En écho à la Journée internationale des droits des femmes, je reçois la journaliste Mathilde Saliou, qui en 2023 publiait « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités ». C'était avant le déferlement de l'intelligence artificielle générative. Alors quelle place pour les femmes à l'ère de l'IA ? J'en discute tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI dans l'atelier des médias.
Ce mardi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Revanche immédiate pour le PSG. 6 jours après sa défaite in extremis, le club parisien va retrouver Liverpool à Anfield. Il faudra absolument l'emporter par 2 buts d'écart face au partenaire de Mo Salah pour espérer se qualifier. Liverpool-PSG, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. C'est à vivre en direct et en intégralité ce mardi à partir de 19h40 TU sur RFI.